Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans ce 60e épisode de Ainsi va la ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Le numéro d'aujourd'hui est soutenu par la Société des Grands Projets, que nous remercions. Je suis Paul Citron, urbaniste, coproducteur de l'émission avec Dominique Alba, architecte et urbaniste. Bonjour Dominique.
Bonjour Paul.
Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'habitat non ordinaire avec nos invités Camille Picard et Gaspard Lyon. Camille Picard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste, urbaniste, vous avez longtemps travaillé dans l'immobilier pour le groupe Caisse des dépôts et vous dirigez désormais Toit temporaire urbain, une entreprise de construction modulable sur des fonciers vacants que vous avez fondé pour la Caisse des dépôts avec SNCF Immobilier. Gaspard Lyon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'université Sorbonne Paris-Nord. Vos travaux portent sur les classes populaires et les formes de logements dégradés non ordinaires.
Alors, pour vous mettre en appétit, nous allons lire un petit extrait de l'ouvrage rédigé par Gaspard Lyon qui s'appelle « Vivre au camping, un mal-logement des classes populaires ». Au-delà de la diversité des formes et des qualités des habitats, des trajectoires, des positions et des expériences, l'enquête menée par Gaspard montre comment les habitants, ces habitants, sont classés dans une position dérogatoire aux droits communs locatifs et privés des différentes dispositions juridiques qui assurent aux locataires protection de leur jouissance de logement. Nul encadrement de la durée du bail, nulle réglementation des hausses des loyers en cours de bail, nulle allocation, nul prêt, nulle aide. Et si l'on peut parler de précarité au sujet de ces habitats non ordinaires, c'est ainsi moins en raison de leur inconfort ou de leur insalubrité. Un certain nombre de ces habitats disposent de tous les équipements d'un logement standardisé, des équipements résidentiels vécus qui peuvent s'avérer très positifs, ou encore de la pauvreté de leurs habitants. Certains sont loin d'être démunis économiquement que de l'insécurité des statuts d'occupation. Une insécurité statutaire qui ne préjuge néanmoins en rien, on l'a vu, de la durabilité effective de ces installations, puisqu'elles sont en moyenne beaucoup plus pérennes que d'autres formes d'habitat, comme les bidonvilles contemporains ou les squats. Ce texte est extrait de Vivre au camping, paru en 2024 au Seuil. Et ça nous amène à la première série de questions. De quoi parle-t-on quand on parle d'hébergement et de logement non ordinaire ? Pourriez-vous nous en parler un peu plus ? Donc peut-être d'abord Gaspard Lyon, au regard de votre expérience, quels sont les chiffres du camping ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce vivre au camping ? Qu'est-ce que vous avez analysé dans votre enquête, je dirais, très riche ? Et je crois que vous avez vous-même habité dans le camping pour pouvoir répondre au mieux.
La catégorie d'habitat non ordinaire, c'est une catégorie que j'ai, j'aborde en tant qu'elle désigne deux éléments, je dirais, principaux, à savoir d'une part le fait que ce sont des formes de logement ou d'habitat qui dérogent aux formes traditionnelles, hein, sur un plan notamment technique, architectural, etc. Mais aussi sur la base du fait que ce sont des lieux, et vous l'avez cité dans le passage que vous avez lu, des lieux qui en fait dérogent aux droits communs locatifs. Donc c'est des lieux, des habitats qui sont faiblement ou très peu protecteurs pour les personnes qui les occupent. Et donc c'est le cas en réalité de tout un tas de situations, hein, qui se sont développées depuis les années 2000, enfin qui existaient depuis très longtemps, mais qui on assiste à une recrudescence dans un contexte d'envolée des prix du logement de ces formes d'habitat peu régulés, peu encadrés, au statut d'occupation faiblement protecteur. Et c'est le cas donc notamment du camping résidentiel, ce qu'on peut appeler le camping résidentiel, à savoir la situation de personnes qui habitent à l'année, dans des caravanes ou dans des mobilhomes, dans des campings traditionnels construits pour à la base pour le tourisme, pour les loisirs, et qui ont été détournés à des fonctions, à des fins résidentielles.
Mais alors quand on s'imagine justement ces campings touristiques, on se les imagine dans des zones extrêmement touristiques, je sais pas, des bords de mer, mais en réalité il y en a également, et c'est ce que vous montrez dans votre enquête, dans les agglomérations. Est-ce que peut-être vous pourriez nous dire où sont les campings que vous avez étudiés, comment, où est-ce qu'ils se situent dans la ville et comment ils s'organisent à l'intérieur, leur taille, les types d'habitants leur taille.
Oui, l'enquête, elle s'est principalement organisée autour de la région parisienne de l'Île-de-France. C'est des campings qu'on trouve souvent en périphérie des agglomérations ou de petites communes, en général dans des territoires à morphologie rurale, en périurbain ou en rural, en milieu rural, souvent à côté de petites villes, hein, des villes de quelques milliers d'habitants. Et ce sont des campings qui sont effectivement, pour la plupart, qui sont loin d'être les campings les plus attractifs sur le plan touristique. Hein, ce qui conduit des gérants ou des gérantes à accueillir ce type de public, c'est notamment le fait qu'il y a une faible attractivité touristique de certains campings qui peut être liée pas forcément à la demande qui est faible, hein, mais au fait aussi qu'un certain nombre de ces gérants et gérantes n'ont pas les ressources suffisantes pour investir et rendre le camping plus attractif pour une clientèle de passage.
Combien il y a de places en général dans ces campings? Est-ce que c'est, enfin, parce que voilà, on peut imaginer d'immenses campings à perte de vue ou au contraire des tout petits campings municipaux, les campings où les gens habitent à l'année, combien il y a d'emplacements et est-ce qu'ils sont 100% dédiés à du camping résidentiel ou est-ce qu'il y a une mixité entre guillemets d'usage entre des gens qui habitent à l'année et des gens qui viennent là en vacances pour du tourisme?
Alors c'est très variable, il y a des campings qui peuvent accueillir, qui sont un peu laissés à l'abandon, hein, notamment des campings municipaux où il y a très peu de demandes, où vous avez quelques dizaines de personnes qui le fréquentent et parmi elles des résidents, des résidentes à l'année. D'autres beaucoup plus conséquents avec des centaines d'installations, hein, de parcelles, donc ça fait potentiellement voilà, plusieurs centaines, voire quasiment 1000 personnes parfois qui se retrouvent dans ces lieux. La plupart des campings qui accueillent des résidents, des résidentes à l'année sont des campings qui pratiquent plutôt un usage mixte, hein, donc à la fois avec des personnes qui viennent pour les loisirs, pour le tourisme, et des personnes qui sont installées à demeure. Mais vous trouvez aussi des campings spécialisés uniquement dans l'accueil de résidents, de résidentes à l'année. Oui.
Et ça peut être des campings municipaux?
Qui sont spécialisés dans l'accueil de résidents ou résidentes, oui, à l'année. Parmi ceux en tout cas que j'ai fréquenté, j'ai pas rencontré dans de campings municipaux où il y avait uniquement de résidents, de résidentes à l'année. C'était plutôt du côté des campings gérés par des personnes privées, oui, et des campings plutôt haut de gamme.
Parce qu'il y a un petit sujet réglementaire.
Ouais.
Et
ouais,
peut-être une dernière question descriptive. Quels sont les équipements? Parce que donc, dans un camping, il peut y avoir soit des tentes, des emplacements vides, des mobil-homes. Quel type d'habitat est utilisé par les personnes qui habitent au camping à l'année? Et d'autre part, quels sont les équipements qui sont mutualisés au sein du camping? Est-ce que c'est des espaces verts, des piscines, des sanitaires?
Ouais, c'est des caravanes ou des mobil-homes. J'ai jamais rencontré de personnes installées à demeure dans des tentes, par exemple. C'était toujours des caravanes ou des mobil-homes.
Combien de mètres carrés une caravane et combien de mètres carrés un mobil-home en moyenne?
Ouais. Alors c'est assez variable en fonction des profils, hein, des personnes qui s'y installent. Je dirais que une caravane c'était en moyenne une dizaine de mètres carrés, un mobil-home, une trentaine, une quarantaine de mètres carrés. Enfin, c'est assez variable parce que un certain nombre de personnes, notamment, aménagent aussi autour de l'habitat, détruisent des cloisons, construisent des annexes. Donc, pour un certain profil que j'ai identifié, on était plutôt à 65 mètres carrés, hein, du côté des mobil-homes. Avec des niveaux de confort qui sont eux-mêmes très variables. Vous avez des caravanes très dégradées, parfois des mobil-homes aussi, hein, très anciens, qui vont être achetés souvent à moins de 1000 euros sur des sites en ligne, sur Le Bon Coin ou sur Place, donc en très mauvais état, hein, qui prennent l'eau, qui sont très très mal isolés, très très mal isolés. Et vous avez à l'inverse des mobil-homes qui sont pour certains des mobil-homes achetés neufs, hein, donc très récents, avec un équipement parfois high-tech, enfin voilà, tout très 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 bien équipé, et là qui représentent des sommes beaucoup plus importantes. Et du côté
ça coûte combien un mobil-home comme ça high-tech?
C'est 60 000, entre 40 et 65 000 euros, ouais,
pour 1000 euros, mais du mètre carré.
Voilà, donc ça c'est les mobil-homes vraiment de plus haut de gamme. Et du côté des infrastructures, on a c'est aussi variable en fonction des prestations des terrains de camping, de leur vous avez des terrains de camping qui sont sans étoiles, hein, sans bas de gamme, ou avec une ou deux étoiles, vous avez assez peu d'équipement. Généralement vous n'avez pas l'eau l'hiver dans ces campings, l'eau est coupée sur les parcelles, donc en termes d'équipement vous avez des sanitaires communs, vous avez souvent quand même un terrain de pétanque ou des terrains de jeu pour les enfants, ce genre de choses. Et dans les campings plus haut de gamme, vous avez régulièrement des piscines, par exemple, des lieux qui peuvent servir de salles de fête, pour pratiquer diverses activités.
Alors, pour en savoir plus, parce qu'on pourrait tirer le fil longtemps, donc vous avez le livre, mais on va peut-être se tourner vers Camille Picard, qui donc va nous expliquer, c'est quoi Toit Temporaire Urbain ?
Toit Temporaire Urbain, c'était d'abord un partenariat, un projet avec un certain nombre d'acteurs qui s'interrogent sur comment donner une utilité à des fonciers vacants, temporairement. Et aujourd'hui, c'est une société, filiale de la Caisse des dépôts et de la SNCF, qui va opérer, qui va être l'ensemblier de ces projets temporaires. Donc notre objectif, c'est d'occuper des fonciers vacants, plutôt des fonciers artificialisés, à la différence de ce qui a été évoqué tout à l'heure, plutôt que des fonciers naturels, on va dire. On sait d'expérience que les projets d'aménagement prennent beaucoup de temps. Le temps du réglementaire, le temps de la concertation, le temps de réunir les fonds nécessaires pour pouvoir construire. Et ce temps, il n'est pas mis à profit sur énormément de terrains. Et notre ambition, c'est d'occuper ces terrains pendant 3 à 4 ans avec des constructions ordinaires, par rapport à ce qui a été dit précédemment. Ordinaires au sens où elles sont réglementaires, du point de vue de la performance environnementale, du point de vue des surfaces minimales par rapport aux chambres, par rapport à leur destination. En revanche, elles ont un truc en plus, elles peuvent se déplacer. Et donc, il s'agit de construire des formes d'habitat collectif, ce qui est une autre différence avec l'occupation des campings, de l'habitat collectif, de l'hébergement. Et là où il y a un point commun avec les propos de Gaspard, c'est sur le type de public qu'on vise. En fait, pourquoi occuper des fonciers temporaires ? C'est pas pour y mettre des familles à demeure et faire ce qui est le rôle du logement social par ailleurs. L'objectif, c'est de loger précisément tous ceux qui sont en marge ou en difficulté, pauvres ou pas. On pense bien sûr au public des précaires, aux étudiants, mais aussi, et ça c'est un point intéressant par rapport aux propos sur les mobilhomes, c'est les travailleurs longue distance. Je donnerai juste un exemple. Quand ils ont construit l'EPR de Flamanville, en Normandie...
Donc l'EPR, c'est la centrale nucléaire ?
Absolument, qui a été un chantier très long, très complexe. Généralement, en EPR, on ne le met pas au milieu d'un bassin de vie où il y a énormément de logements. On essaie de le mettre quand même à peu près à distance. Il y a bien sûr des logements définitifs qui vont se construire pour les ouvriers à terme. En revanche, il y a des besoins sur le chantier de compagnons. Et ces compagnons, ça peut atteindre des pics de 4 000, 5 000, 8 000 personnes pendant 10 ans. Ces gens-là, à Flamanville, ils se sont logés dans du mobilhome. Aujourd'hui, dans le cadre des nouveaux projets qui se développent, de nouveaux EPR justement, que ce soit à Dunkerque ou que ce soit à Dieppe, l'ambition des territoires, c'est de construire du logement temporaire collectif. Parce que du mobilhome à perte de vue sur des territoires maritimes et touristiques, c'est également peut-être une difficulté. En tout cas, la solution Toit Temporaire Urbain, c'est une alternative à ce type d'habitat non ordinaire, avec cette faculté à pouvoir libérer les terrains une fois que le besoin est achevé.
Donc c'est le mobilhome, mais empilé.
C'est ça, c'est la brique en bois. C'est une construction bois collective assemblée et qui a toutes les caractéristiques d'un bâtiment définitif.
Cela étant, vous dites 3-4 ans, mais pour autant, vous dites aussi, c'est quand même dans les agglomérations, et je crois que le premier projet que vous développez est en Île-de-France, dans le Grand Paris, c'est à destination des plus précaires. Ce qui n'est pas du tout le cas des travailleurs longue distance, enfin des travailleurs qui sont éloignés de chez eux et qui effectivement ont un intérêt à trouver un habitat un peu plus confortable qu'une caravane, peut-être dans un camping, même si peut-être à la fin de notre échange, ou de vos échanges, on va peut-être trouver des passerelles entre les deux systèmes. Camille ?
Oui, alors c'est ça peut être effectivement pour des publics précaires. Pourquoi ? Parce que... Aujourd'hui, les précaires, ils peuvent se loger, pour certains d'entre eux, ça a été évoqué, dans des campings. Les pouvoirs publics qui sont en responsabilité des publics précaires, aujourd'hui, une des solutions les plus utilisées, c'est l'annuité hôtelière. Et ça aussi, c'est un peu une dérive.
75 000 en Île-de-France chaque soir ?
Oui, en Seine-Saint-Denis, le département de la Seine-Saint-Denis, qui ne gère que le public femmes isolées avec enfants de moins de 3 ans, loge chaque nuit 800 paye chaque nuit 800 chambres d'hôtel. La nuitée hôtelière, c'est aussi un détournement finalement de l'usage principal de l'hôtel, comme on l'a vu sur le camping, c'est l'usage... Et évolue en fonction, on va dire, de l'équilibre économique d'un camping. Bah, c'est un peu pareil sur les hôtels, notamment en Seine-Saint-Denis, qui répondent maintenant à des appels d'offres de l'État ou du département pour allouer des chambres à des publics précaires. Seulement qu'une chambre d'hôtel, c'est pas vraiment fait pour habiter durablement. On peut pas y cuisiner. C'est pas toujours aux normes pour accueillir des enfants. Et d'ailleurs, il y a une loi qui est passée qui aujourd'hui interdit de mettre des mineurs isolés à l'hôtel parce qu'il y a eu un certain nombre d'accidents. Donc l'idée avec les constructions temporaires collectives qu'on entend développer, c'est d'apporter une alternative en fait à ces solutions qui sont des solutions où on manque d'accompagnement social. Maintenant, on est convaincu d'une chose par rapport à ce que vous disiez sur c'est pas les mêmes publics. C'est pas parce que c'est pas les mêmes publics qu'ils ont pas droit à la même qualité de vie et qu'ils ont pas droit les uns et les autres à loger dans des surfaces suffisantes, dans un environnement performant d'un point de vue thermique et acoustique.
Alors, vous décrivez tous les deux à chaque fois une solution qui finalement apporte une amélioration vis-à-vis de la solution qu'auraient utilisée les habitants s'ils ne l'avaient pas eu. Donc dans le cas de TTU, Camille Picard, c'est une amélioration par rapport à l'hôtellerie sociale. Et ce que vous décrivez dans votre livre, Gaspard Lyon, c'est que finalement les gens qui habitent au camping, pour certains, préfèrent habiter au camping plutôt que dans un appartement collectif. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Donc le camping n'est pas forcément une alternative à la rue, comme on pourrait l'imaginer, sans connaître, mais plutôt une alternative au logement collectif. Ma question, c'est finalement, à chaque fois, vous répondez, donc vos solutions répondent à un besoin d'habiter avec davantage de confort. Qu'est-ce qui s'y ajoute en termes de vie sociale, en termes d'espaces mutualisés? Est-ce que dans les toits temporaires urbains, justement, il y a qu'est-ce qu'il y a qui manque à l'hôtel social, par exemple? Est-ce qu'il y a des cuisines? Je crois que c'est aussi des habitats individuels, là où, par exemple, les centres d'hébergement d'urgence proposent très souvent des solutions collectives, c'est-à-dire plusieurs personnes qui habitent dans la même chambre. En quoi c'est un progrès?
Alors, déjà, toi, temporaire urbain, nous, on s'adapte, on va dire, au programme. Donc, on est capable de produire du T1 jusqu'au T6, si on doit reloger temporairement des familles de grande taille. Mais dans le cas particulier de Stein, on a beaucoup travaillé avec le département pour se demander comment est-ce qu'on accompagnait les familles vers un cheminement qui les emmène ensuite vers un logement ordinaire. Donc, la question, par exemple, c'était celle des salles de bain. Donc, on a fait des salles de bain privatives, étant donné qu'on est avec des femmes avec enfants et qu'on a imaginé que des salles de bain collectives, non seulement ça provoquerait beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés, et de façon très pragmatique, ça ferait des salles de bain certainement très abîmées. Et tout le retour d'expérience des centres d'hébergement aujourd'hui, c'est que les salles de bain, elles sont généralement bonnes à acheter une fois que le temps de l'occupation est passé. En revanche, on a fait des cuisines collectives. Alors, on a fait des cuisines collectives parce qu'on s'est dit que c'était le lieu du vivre ensemble, que c'était le lieu où l'association qui est à demeure allait accompagner les familles pour qu'elles se rencontrent. On sait que ça peut être aussi le lieu de tension, la cuisine collective. Donc, il va falloir être extrêmement vigilant et il n'y a pas que l'architecture qui va apporter des solutions. Il y a bien sûr l'accompagnement social pour que, à partir de 4 plaques, 3 frigos, les femmes trouvent leur marque, cohabitent les unes avec les autres. Donc, c'est un centre d'hébergement, celui de Stein, qu'on va livrer en 2025, qui sera occupé par 30 familles, donc 30 femmes, qui auront entre 1 et 4 enfants. Elles auront donc chacune une chambre individuelle et il y aura 3 cuisines collectives. Donc, une cuisine pour, on peut dire, 10 familles avec un accompagnement quotidien.
Et il y aura aussi pour les enfants un petit espace, parce qu'une chambre, quand on a 4 enfants...
Alors, on va du T1 au T2, T3, donc en fonction du nombre d'enfants, l'espace évolue et donc il y a des chambres qui font jusqu'à 36 mètres carrés.
Donc c'est le même modèle que le logement dit normal.
Sans cuisine. Okay. Sans cuisine et sans pièce à vivre, puisque la pièce à vivre, c'est la pièce collective qui est à rez-de-chaussée pour l'ensemble des familles. Voilà, c'est également une terrasse extérieure et c'est également un jardin à l'extérieur. Les familles en général, à l'hôtel, elles restent en moyenne 2 ans. Donc on peut imaginer qu'on ne va pas faire de miracle, c'est-à-dire que l'accompagnement social vers le logement social, il va prendre tout autant de temps. Donc on peut imaginer que les familles resteront 2 ans dans ces logements. Et donc il va falloir être, je dirais, à leur côté pour à la fois qu'elles s'approprient l'espace et qu'elles se projettent dans d'autres types de logements à terme.
Gaspard Lyon, combien de temps reste une personne qui habite au camping en moyenne? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Est-ce que c'est comparable à du logement ordinaire? Première question.
C'est très difficile à dire parce qu'il y a effectivement il y a peu de en fait de. Enfin, ce sont des situations qui échappent largement à la statistique publique. Hein, donc, de ce que j'ai pu observer par rapport aux personnes rencontrées, on était en moyenne à 8, 9, 10 ans. Ça varie un petit peu en fonction des profils, mais voilà, on était à peu près là, avec la médiane qui était aussi située à ces niveaux-là, temps, je crois.
Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de personnes concernées par le fait d'habiter à l'année au camping?
C'est pareil, on peut uniquement donner des ordres de grandeur en réalité. Hein, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes, probablement plus de 100 000, mais c'est, voilà, c'est une situation qui est très mal documentée par la puissance publique et par la statistique publique.
D'accord, mais donc c'est quand même un chiffre qui est largement comparable, même supérieur aux 75 000 nuitées en hôtellerie sociale qu'on évoquait juste avant. Donc effectivement, c'est une sorte d'angle mort assez important quand même. Quelle vie sociale il peut y avoir dans ces campings ?
Et quel accompagnement social est accepté ?
Est accepté par les personnes elles-mêmes,
oui,
c'est ça ?
Oui, parce que je poserai la question, parce que là, c'est obligatoire quand on est dans le toit temporaire urbain. On vient avec le package social. Dans le cas du camping, il y a une certaine distance. Quand on lit le livre, on voit bien que...
Tout à fait, ouais, je crois qu'il y a une différence assez nette de ce point de vue-là, effectivement, au sens où ce sont des personnes qui ont été conduites à un moment donné de leur parcours à investir ces lieux et qui sont effectivement souvent... plutôt, enfin qui, alors ça va varier en fonction des profils, hein, des profils sociaux. Il y a une diversité de profils au sein de ces terrains de camping, mais globalement il y a quand même une certaine mise à distance effectivement de l'accompagnement social, en tout cas pour des personnes qui trouvent des formes de satisfaction assez poussées à vivre dans ces terrains de camping. Ces satisfactions se fondent sur plusieurs choses et notamment effectivement les sociabilités, hein, les sociabilités locales. C'est à la fois être propriétaire de son habitat, une maîtrise de sa caravane ou de son mobilhome, avoir une parcelle de jardin dans des terrains qui sont valorisés, hein, par ces personnes. Terrain de camping, ça renvoie à l'imaginaire vacancier, à des souvenirs de vacances pour pas mal de ces personnes. Et puis c'est toutes les sociabilités locales, hein. Donc pour des résidents, des résidentes qui ont fait le choix entre guillemets de quitter un logement qui aurait pu s'y maintenir pour devenir propriétaire d'un mobil-home dans un camping haut de gamme, c'est des sociabilités, voilà, qui sont valorisées, valorisantes. Et pour des fractions plus précarisées, ça agit comme des formes de support pour pallier aux difficultés, pour faire face à la privation économique, faire face à l'absence d'emploi pour la plupart, aux défaillances des politiques sociales, hein. Donc c'est un énormément de relations d'entraide dans ces terrains de camping bas de gamme, des formes de dons et de contre-dons, beaucoup de travail à côté, d'activités liées à la débrouille. Et donc là, on retrouve, voilà, cette auto-organisation qui est aussi valorisée au sens où ces personnes, elles se retrouvent finalement avec des caractéristiques sociales assez proches, des parcours de vie relativement similaires pour certaines, dans des lieux où il y a la possibilité de mettre à distance, en tout cas d'une certaine façon, dans une certaine mesure, les modes de classement dominants. Donc ces personnes ont souvent le sentiment de vivre dans un lieu protecteur à distance de la stigmatisation sociale, par exemple.
On va marquer une première pause musicale. Et on se retrouve juste après avec Gaspard Lyon et Camille Picard. Mieux sec, on était tellement de gauche.
Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
C'est drôle de voir ce que nos pensées sont devenues. On était tellement de gauche, aujourd'hui on ne sait plus. On compte les plaies, les bosses, tout ce qu'on marche on a perdu. On se dit que de toute façon l'histoire est moche. Ce qui n'était pas gagné d'avance est désormais perdu. Alors on laisse nos mains dans nos poches, même plus envie d'avoir le poing tendu. Au fond de la sacoche de l'étudiant que depuis longtemps on n'est plus. On ne pense plus qu'à notre poste. Là on est prêt à se battre à main nue, car on pense au loyer, à la femme et aux gosses, à notre honneur et à tout ce qu'il a fallu. Tout ce qu'il a fallu comme coup bas, comme riposte, contre des collègues qui vous tuent et des nouveaux qui reluquent votre poste. Comme si ce n'était pas pour vous ce beau statut. Alors ils essayent de vous faire gicler du socle par les moyens les plus tordus. À essayer de vivre comme si de rien n'était. On se fait un beau jour attrapé par la marée. À essayer de vivre comme si de rien n'était. On se fait un beau jour attrapé par la marée. Et quand vous apprenez un jour par la poste que de vous, on ne veut plus vous repenser à leur cocktail Molotov. Ça ne serait pas arrivé si on s'était battu, mais c'est trop tard pour que l'on rechausse les vieilles idées que l'on croyait perdues. C'est désormais bon pour les gosses. Allez les enfants, foutez le raffiné. C'est drôle de voir ce que nos pensées sont devenues. On était tellement de gauche, aujourd'hui on ne sait plus. On compte les plaies, les bosses, tout ce qu'en marche on a perdu. On se dit que de toute façon l'histoire est moche. Ce qui n'était pas gagné d'avance est désormais perdu. Alors on laisse nos mains dans nos poches, même plus l'envie d'avoir le poing tendu. Et les nouveaux qui reluquent votre poste, comme si ce n'était pas pour vous ce beau statut. Alors ils essaient de nous faire gicler du socle par les moyens les plus tordus. À essayer de vivre comme si de rien n'était, on se fait un beau jour rattrapé par la marée. À essayer de vivre comme si de rien n'était, on se fait un beau jour rattrapé par la marée.
Sur Cause Commune, sur le plateau de Ainsi va la ville. On est donc toujours avec Camille Picard et Gaspard Lyon pour évoquer le logement non ordinaire.
Alors tous les deux, que pensez-vous de ce que décrit l'autre ? En quoi tout ça, ça fait ville ?
Je veux bien commencer.
Vas-y,
ce
Camille.
Que je trouve intéressant dans l'occupation permanente, on va dire, des campings, c'est que ça traduit le désir, en fait, d'habiter d'un certain nombre de personnes, de pouvoir avoir un espace à soi, un espace extérieur. Donc, ça, c'est, on va dire, c'est des désirs que partagent certainement beaucoup de personnes. Et donc, c'est intéressant de l'entendre aussi pour s'en inspirer sur du définitif. Par exemple, nous, sur Toit Temporaire Urbain, on nous demande aujourd'hui de travailler, par exemple, sur le relogement de familles, comme on dit, de gens du voyage ou de population rom, qui sont typiquement des personnes qui vivent beaucoup à l'extérieur, beaucoup dans des caravanes. Et donc, la question d'un logement collectif et de l'accès privatif à un logement collectif sans espace commun, c'est une question importante. En revanche, ce qui, moi, m'interroge sur la multiplication de ce type de format d'habiter individuel sur de l'espace naturel, c'est quand même la question du réseau vière, du réseau électrique, du réseau d'eau, de toutes ces infrastructures et leur impact sur les terrains et sur les sols. Parce que finalement, c'est quand même aussi une forme d'extension urbaine non contrôlée.
Gaspard Lyon.
Disons que il y a beaucoup de choses qui m'ont aussi attisé ma curiosité, que je trouvais très très intéressant dans le propos de Camille. Je dirais que j'aurais envie d'en savoir plus du coup sur l'expérience vécue de ces personnes aussi, comment ça s'inscrit dans leur parcours, qu'est-ce qu'elles y font, est-ce qu'il y a une vie sociale qui peut se développer, comment ça va être perçu par les personnes elles-mêmes. Alors je vais réagir aussi à ta remarque sur le camping. Moi en retour, la question que j'avais sur l'habitat dans des friches comme ça de manière temporaire, c'est j'entends bien comment ça peut répondre à des besoins, notamment pour des personnes de passage, comment ça peut être une alternative au logement social, enfin aux hôtels meublés par exemple, à l'hébergement d'urgence, et en même temps ça reconduit quand même aussi une forme d'instabilité puisque 3-4 ans ça reste du temporaire. La plupart des personnes, en tout cas, que j'ai rencontrées dans le cadre de cette recherche auparavant à la rue, c'est des gens qui cherchent une chose, c'est la stabilité. Hein, pour les personnes les plus précaires, c'est pouvoir, dans une situation de vulnérabilité extrême, d'avoir un lieu d'ancrage pour pouvoir réorganiser leur existence, retrouver potentiellement du travail pour celles qui en ont plus, tisser des relations sociales. Donc voilà, il y a ce questionnement-là. Du côté des résidents dans des terrains de camping, c'était souvent quelque chose qui apparaissait comme primordial, et notamment pour des personnes qui avaient connu la rue, c'était de retrouver un chez-soi, être propriétaire de son habitat et pouvoir se projeter dans le temps avec une incertitude liée au statut d'occupation, mais néanmoins cette projection temporelle. Et sur la question des infrastructures, vous avez en fait des terrains qui sont aménagés. Hein. C'est pas le cas de tous, mais vous avez un certain nombre de terrains où il y a un réseau électrique, un réseau d'eau. Et en réalité, pour beaucoup de ces personnes, le fait que ça soit situé dans des terrains de camping et dans ces environnements-là, c'est quelque chose qui est valorisé. Parce que ce sont beaucoup de personnes qui ont vécu en milieu rural, donc qui sont attachées à ces territoires, qui ont des relations, qui apprécient d'avoir une parcelle de jardin, et comme je le disais tout à l'heure, qui peuvent valoriser le camping en lui-même aussi, hein, ce que ça représente en termes de pratiques populaires, en termes de loisirs, etc.
Mais est-ce que vous pensez que ces deux formes que vous décrivez peuvent faire ville d'une certaine façon? Parce que entre ce qui s'installe dans des territoires vacants, qui vont faire l'objet d'un projet d'aménagement, c'est-à-dire qui ne sont pas encore dans la ville d'une certaine façon, et le camping qui est un périmètre avec une clôture, avec une limite, donc qui ne fait pas partie de l'espace public urbain, comment vous voyez comment ces habitats où les gens se sentent déjà un peu stigmatisés quand même, regardés parce que différents, pourraient devenir des éléments juste de la ville? Juste, ils sont différents, mais pas plus que ça, quoi.
Bah, moi, il me semble qu'il y a justement la nécessité aussi d'interroger le cadre urbain, le format. Enfin, pour en tout cas, pour un certain nombre de ces personnes, beaucoup sont issus de ces milieux ruraux, ont vécu dans l'habitat individuel étant jeunes, sont attachés à l'environnement, à un certain nombre d'attributs liés au milieu rural, la présence de forêts, de champs. Donc, ce ne sont pas des personnes, pour beaucoup, en tout cas, c'est pas le cas de tous, hein, un certain nombre d'un profil que je décris dans le livre, des personnes qui ont été socialisés en milieu urbain, qui vivent comme un déclassement, beaucoup de souffrance, et qui aspirent à retourner, à retrouver un logement dans des villes. Pour beaucoup de ces personnes, ce qui est apprécié, la ville représente un certain nombre de nuisances, plus qu'un lieu désirable. Donc c'est ça aussi.
Mais comment la ville, elle, peut considérer le camping comme positif? Parce que du point de vue du campeur, on a bien saisi. Mais dans l'autre sens, pour celui qui habite la ville, le camping à côté de chez lui, c'est bien ou c'est mal?
Alors déjà, la plupart, en fait, ce sont souvent des campings qui sont fortement invisibilisés, puisque souvent, ils sont pas dans les villes mêmes, hein, ils sont à un ou quelques kilomètres de la ville. Donc la plupart, en fait, j'ai pu interroger des résidents et résidentes de ces villes, enfin de ces petites communes, la plupart ignoraient le camping ou ignoraient ses usages, hein, ses fonctions. Et le regard qui pouvait être porté était parfois en réunion de quartier, dans des cadres où le camping commençait à poser problème pour la municipalité, là, pouvait susciter des réactions d'hostilité parfois. Le fait que ces résidents, résidentes ne payent pas de taxes, hein, voilà, il y avait des discours de ce type-là, mais on pourrait y revenir, mais c'est...
Et alors Camille Picard, à propos justement de l'acceptabilité sociale de toits temporaires urbains, souvent on entend que les maires, par exemple, ne veulent pas toujours accueillir de l'hébergement d'urgence au sein de leur commune. Est-ce que le fait de proposer finalement de venir occuper des espaces qui étaient jusqu'ici délaissés avec des bâtiments qui ne ressemblent pas à des bâtiments modulables classiques, mais qui sont avec un souci architectural et pour une durée temporaire, est-ce que ça facilite l'acceptabilité sociale de ces usages résidentiels?
Alors, c'était un peu le pari qu'on voulait faire. C'était de faire d'abord avec les élus, parce qu'on fait des, entre guillemets, des mini-projets urbains. On essaie de se glisser dans la temporalité de la fabrique de la ville pour faire quelque chose qui ait les mêmes qualités qu'un projet urbain, mais sur un temps court. Donc évidemment, il faut convaincre l'élu, et la qualité architecturale, c'est évident que c'est la première des étapes. Donc sortir, on va dire, du vocabulaire, de la grammaire, du modulaire, de l'algéco, etc. Donc
vous voudriez nous décrire en deux mots un toit temporaire urbain? Combien d'étages? Quelle couleur?
Très concrètement, on a mis au point un système constructif de modules bois, entièrement en bois, produit à côté de Montpellier, qui ont un système d'assemblage qui permet de les déplacer facilement. Donc c'est le système d'assemblage, c'est des platines métalliques aux 8 angles de ces modules qui font 3 mètres par 6 mètres. Donc ce sont des petits modules et 3 étant la moitié de 6, on peut les assembler façon tapis-tatami et donc produire vraiment des formes architecturales extrêmement variées. Donc on sort aussi de la construction temporaire façon pain de mie en tranches à découper, puisqu'on peut avoir des formes en U, des formes très variées, des décrochés, des terrasses, etc. Donc en fait, on a en réalité un système constructif qui va être mis à disposition d'architectes qui, à chaque opération, vont s'en saisir pour produire une construction adaptée et au terrain, au PLU et aux besoins. Mais par rapport à la question de Dominique sur comment faire ville, On s'attaque, nous, à des terrains qui sont pas des friches éloignées des villes. On s'attaque vraiment à des fonciers très compliqués, en réalité. Parce que pour prendre l'exemple de Stein, c'est quelque chose qui ne ressemble pas du tout à une friche. Si vous vous promenez avenue Stalingrad à Stein, au sud du Clos Saint-Lazare, ce que vous allez voir, c'est un terrain enherbé qui ressemble peut-être à un square pas entretenu et qui, en réalité, est l'ancien terrain d'assiette d'une tour qui a été démolie il y a 15 ans. Donc la nature a repris ses droits, il y a un petit cheminement piéton qui s'est aménagé. Et nous, sur cet espace qui fait 1800 m², on va implanter un centre d'hébergement sur une emprise au sol de 800 m² et un petit local associatif de 100 m² pour reloger une association du quartier qui est aujourd'hui dans des conditions complètement insalubres. Et on va, et ça on y tient beaucoup, reconstituer le petit cheminement piéton dont je parlais pour que cette emprise reste perméable aux habitants. Et donc on s'insère dans vraiment au vu et au su de tous. Et d'ailleurs on a tenu, la ville a tenu, mais on était totalement mobilisés à ce qu'on présente aux habitants le projet. Et donc on a fait 3 réunions publiques. Alors c'est toujours compliqué parce qu'on finit par les faire très tôt par rapport au projet, parce que le projet, pour tout un tas de raisons financières, juridiques, etc., peut prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, on a eu un retour extrêmement positif des habitants. Alors, plutôt des habitantes, parce qu'en réunion de concertation, en tout cas au Clos Saint-Lazare, c'est essentiellement des femmes qui se mobilisent, principalement, et extrêmement accueillantes et considérant ce type d'occupation non pas comme une nuisance, mais plutôt comme un point de vigilance pour que ces femmes ne subissent pas les mêmes désagréments qu'elles peuvent subir en tant qu'habitantes du quartier, par exemple, par rapport à certaines délinquances ou certains trafics. Elles étaient plutôt en prévention pour ces publics-là. Alors peut-être aussi, parce que c'est un public de femmes avec enfants, ce qui est toujours moins effrayant qu'un public de grands marginaux avec chiens. Et donc ça, on s'y est pas encore attaqué.
Une question pour tous les deux. Qu'est-ce que, selon vous, on devrait faire davantage dans les villes pour qu'elles fonctionnent mieux? Et qu'est-ce que, par ailleurs, on devrait arrêter de faire pour que la ville aille mieux? Gaspard Lyon.
Je dirais que Le point de départ pour moi, ce serait de rendre déjà les villes accessibles aux personnes qui y vivent, qui ont des activités, des relations, qui potentiellement y travaillent également. Donc on voit comment aujourd'hui le logement devient de moins en moins accessible à toute une part de la population, en particulier pour les classes populaires. Donc à mon sens, il y a un enjeu à ce niveau-là, hein, c'est agir sur le marché immobilier pour le réguler davantage. L'encadrement des loyers, on voit ce que ça donne, hein, donc ça a des effets, mais c'est des effets qui sont limités puisque par ailleurs c'est pour le moment c'est expérimental, c'est à la discrétion des communes qui peuvent en faire la demande à l'État. Donc et puis le plafond a été positionné très haut, hein, 20% au-dessus du loyer médian, donc ça freine seulement la hausse. Mais ça conduit. Donc il y aurait besoin de revoir ce plafond à la baisse si on voulait annuler les effets des dernières années, de la hausse des dernières années. Et puis je dirais qu'un autre point qui me semble important au cœur aujourd'hui de ces questions-là, c'est la question des usages des logements, de leur place, hein, enfin de leur fonction dans les villes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une partie du parc qui est sous-occupé ou inoccupé. Hein. On a 10% des logements en France qui sont des résidences secondaires, 10% qui sont des logements vacants. À Paris, c'est un logement privé sur 4 qui est non occupé ou sous-occupé. Donc il y a là, je crois, une vraie question sur qui se pose, hein, sur les villes, et de ce point de vue-là, il y a des leviers d'action qui existent. Hein. La fiscalité pourrait libérer des centaines de milliers de logements en relativement rapidement. En quelques années, la France est un des pays où la fiscalité sur les résidences secondaires et la vacance est parmi les plus faibles. Quand on regarde en Belgique ou au Canada, par exemple, on voit que, et ça a des effets, ça a des effets très forts, mais il y a plein d'autres manières effectivement d'agir sur la question du logement. Là, une question à l'échelle nationale, c'est quand même d'abord celle-là, la régulation du marché immobilier. Après, il y a effectivement les situations des personnes qui sont dans des habitats informels, atypiques, voilà, où là, il y a effectivement aussi, à mon sens, la nécessité d'agir pour garantir davantage de droits, de protection.
Est-ce qu'on n'a pas un peu, parfois, une opposition, et ça vaut aussi pour tous les deux, entre le formel et l'informel dans le logement. Il y a ce qui est considéré comme étant recevable, et puis il y a ce qui est considéré comme étant non recevable, qu'il soit préfabriqué et modulaire, ou qu'il soit temporaire, si je puis m'exprimer ainsi, dans le cadre du camping. Je ne sais pas, Camille.
Non recevable du point de vue de la...
C'est qu'est-ce qu'on va faire dans la ville, enfin, c'était la
oui.
question de Paul.
Hein, qu'est-ce qui est
admissible et qu'est-ce qu'on doit arrêter?
Moi, je pense qu'il ne faut rien lâcher sur la performance environnementale des logements. Et ça vaut autant pour ce qui se construit, ce qui est le plus facile, que pour ce qui existe. Et c'est vrai que sur la question de l'habitat léger, il y a beaucoup de failles juridiques sur le dispositif qui permet d'échapper, on va dire, à la réglementation environnementale, même pour des productions nouvelles, dès lors que c'est pas occupé toute l'année. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels, à mon avis, il faut rien lâcher parce qu'on est dans un contexte économique qui est difficile et où toutes les bonnes raisons sont maintenant sur la table pour renoncer. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, par rapport à la façon de faire la... Enfin, moi, je m'exprimerai plus sur la façon de faire la ville. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut collectivement que les professionnels publics et privés avouent, c'est que les calendriers sont toujours démentis. Et que comme les calendriers sont toujours démentis, il faut pouvoir s'autoriser à travailler non pas de « je vais à un point A, à un point B, je mets 15 ans pour y arriver » à « que se passe-t-il dans ce continuum ?» Parce que c'est aussi ça qui facilite l'acceptabilité des habitants. Pour les habitants, 15 ans, c'est le temps qu'ils vont passer avec leurs enfants dans leur appartement à les élever. Donc si pendant 15 ans, ils ont un chantier dont ils ne profitent pas pour qu'au bout de 15 ans, finalement, ils quittent les lieux, ça n'a strictement aucun intérêt pour eux. Et donc, je pense que dans la posture, il faut qu'on s'autorise un peu plus collectivement à penser les temps de la ville au fur et à mesure et changer peut-être parfois de braquet si jamais on est démenti par le contexte et un certain nombre d'éléments.
Et donc, dans ces temps de la ville, utiliser des supports qui peuvent être des campings, parce qu'on pourrait imaginer des campings temporaires, pourquoi pas, ou du toit temporaire urbain, en fait.
On va marquer une deuxième pause musicale en écoutant Ring for Fool de Janina, et on se rejoint juste après pour la dernière partie de l'émission.
Shiny blue.
Sing like a wall in a quick fire. I sing sentence full of trouble, 'cause you shut my heart.
To you, do fix my soul on your shiny blue.
Fuck the penitents.
There's a shiny ghost of the twisted history in the south, the frost burns along.
I
joke, I woke, I play, I say, can't.
you smoke my spoon and dig my soul till I learn to sing for groove. You smoke my spoon and dig my soul till I find the wind for food. You smoke my spoon and dig my soul till I learn to sing for groove. You smoke my spoon and dig my soul.
Voilà, nous rentrons dans la dernière partie de l'émission et nous allons essayer d'élargir un tout petit peu la vision puisque on a eu pas mal d'échanges, la place de ces habitats non ordinaires dans les parcours résidentiels. Aujourd'hui, on a l'impression parfois de parler de solutions très marginales, mais dans le monde, on a plus de 6 millions de personnes qui vivent dans des camps de réfugiés. On va en avoir de plus en plus, des personnes déplacées, des réfugiés climatiques. Étudiants, travailleurs, déplacés, vous l'avez dit, ça concerne tout le monde, c'est pas uniquement... les personnes à la rue, si je puis dire, qui est ceux auxquels on pense quand on pense à temporaire. Comment est-ce qu'on parle du futur avec ces solutions, Camille, puis Gaspard?
Par rapport à la question du logement des réfugiés, c'est intéressant parce qu'il y a eu il n'y a pas longtemps une rencontre, c'était je crois à l'Académie du climat sur les réfugiés climatiques et la question de l'hébergement justement et qui disait que finalement on a parfois cette vision que le changement climatique va faire qu'on va avoir des déplacements massifs de population. En réalité, on se rend compte que les populations se déplacent dès lors qu'elles ont un lieu de vie qui n'est pas du tout résilient et qu'en fait il y a beaucoup de populations qui sont capables ou de s'adapter ou de construire autrement déjà sur place, dès lors surtout qu'il y a un tissu social très fort et qu'il y a de l'attachement. En fait, là où les gens s'en vont, c'est qu'il n'y a déjà plus de structure sociale. En tout cas, par rapport à ces sujets-là, ce dont on se rend compte, c'est que très souvent, on réagit dans l'urgence et que l'urgence dure. Il y a un très bon exemple, c'est l'Aquila, le tremblement de terre qui avait eu lieu dans les Abruzzes. Il y a eu des constructions très rapides qui avaient été mises en place à l'époque par le gouvernement Berlusconi, qui sont restées dans un état totalement dégradé très rapidement, pour plein de raisons liées à la façon dont ça avait été construit, et puis d'autres raisons certainement très complexes d'un point de vue et juridique et économique, mais tout ça pour dire que la question de gérer l'urgence, mais anticiper l'urgence et avoir une forme d'agilité, c'est ça nous qui nous préoccupe, mais ça veut dire des moyens économiques, parce que si on veut commencer à anticiper, ça veut dire qu'il faut investir aujourd'hui pour demain qu'on ne connaît pas. Et typiquement, nous, toi, temporaire urbain, aujourd'hui on se déploie sur des opérations connues, on se déploie pas encore au bénéfice d'opérations inconnues dont on se demande bien qui pourrait les financer, peut-être les assureurs, peut-être les collectivités. Mais en tout cas, on peut se dire qu'il y a peut-être un fonds à imaginer autour de tout ça pour prévenir l'urgence et ces enjeux.
Et Gaspard, dans votre livre, vous dites beaucoup que ce qui ne va pas dans le camping, c'est le fait qu'on n'ait pas accès à la réglementation. Et qu'on se dit peut-être que si on voulait développer un habitat de cette nature-là, c'est vous qui allez nous le dire, est-ce que cette réglementation est nécessaire? Est-ce que ferait pas fuir les habitants de ces campings? Comment vous voyez les choses?
Dans l'état actuel des choses, les personnes qui vivent dans des campings relèvent de la réglementation du tourisme et donc sont extrêmement peu protégées. C'est un cadre législatif qui favorise très, très nettement, hein, dans les relations locatives qui se donnent à voir dans ces terrains, les propriétaires des terrains qui peuvent mettre en place des règlements quasiment de manière discrétionnaire, avec des règles qui peuvent apparaître comme clairement abusives. Hein.
Par exemple, est-ce que les gens peuvent recevoir du courrier au camping?
Alors dans les faits, oui, souvent. Alors la réglementation interdit la domiciliation, mais la plupart des gérants l'autorisent. Néanmoins, ces résidents résidentes ne disposent pas d'un bail locatif, donc disposent d'un contrat qui est souvent à l'année, parfois au mois ou à la semaine.
Donc le contrat peut être
Levé à tout moment. Enfin, il n'y a pas le principe de la tacite reconduction. Il n'y a pas d'encadrement de la hausse des fluides, des prix de l'énergie, de l'eau.
La trêve hivernale
ne s'applique pas, de même qu'elle s'applique pas pour les gens du voyage. Hein. Donc, il y a toute cette question aussi de la reconnaissance d'autres formes d'habitat et d'habiter hein, qui se pose derrière. En réalité, ça concerne effectivement beaucoup de personnes. Alors dans le monde, évidemment, hein, plus la moitié hein, sans doute de la population mondiale vit aujourd'hui dans des formes de logement plus ou moins informels, auto-construits, auto-installés. Mais ce qu'on observe, c'est qu'en France, ça s'est nettement développé à la fois dans un contexte de restriction des possibles dans le parc du logement ordinaire. On n'y a jamais eu autant de personnes en attente d'un logement social, hein, 2,7 millions de ménages aujourd'hui. Donc c'est un chiffre inédit. Et jamais autant de personnes non plus à la rue au cours des dernières décennies depuis qu'on comptabilise ces situations. Et puis il y a aussi toutes les personnes qui peuvent aspirer aussi à d'autres manières d'habiter, d'autres manières de vivre, hein, en particulier dans les territoires ruraux, mais aussi dans ces terrains de camping, des personnes qui potentiellement étaient arrivées sous la contrainte et qui en fait finalement se rendent compte qu'il y a un certain nombre d'avantages, des relations qui se sont tissées à vivre dans ces habitats, et des personnes que vous trouvez dans d'autres lieux qui vont promouvoir une forme d'indépendance, d'accès à une forme d'autonomie énergétique, professionnelle, un autre rapport à la nature aussi. Mmh. Hein, donc c'est ça aussi, ça questionne aussi les normes du logement telles qu'elles sont construites à partir d'une forme très standardisée de logement. Ouais.
C'est ça que j'ai trouvé très intéressant en lisant votre livre, c'est que finalement, vous décrivez un type de logement qui, si on regarde concrètement, est plutôt correspond plutôt bien aux aspirations de beaucoup de Français. C'est un logement individuel. Il y a un espace vert, etc. C'est dans un endroit calme. Et d'un autre côté, ce serait facile et je pense très entendable d'entendre aussi les associations de défense des droits au logement qui dénoncent le risque d'un nivellement par le bas, des normes de confort, de décence des logements si on faisait rentrer dans le droit commun le fait d'habiter un mobil-home. Mais alors, du coup, par rapport à ce que vous disiez, à l'extrait que lisait Dominique en introduction, est-ce que il vaudrait mieux finalement légaliser et rendre plus, légaliser ces types d'habitats en donnant davantage de droits à ces locataires, ou est-ce que au contraire il faut faire attention justement à éviter les nivellements? Comment vous situez par rapport à cette ligne de crête?
Je pense qu'il n'y a pas de de tension, de relation en tout cas linéaire, mécanique entre les deux. Hein. La plupart des associations de défense du droit au logement aujourd'hui, elles plaident. Hein, pour le DAL, par exemple, plaide pour la reconnaissance des droits garantis à toute personne vulnérable, hein, protéger des personnes dans des bidonvilles, dans des tentes, dans des campings. Donc, c'est assurer un droit au logement qui soit plus exigeant, en réalité, qui confère des garanties supplémentaires, la trêve hivernale pour des gens du voyage, pour des étudiants dans des CROUS, pour des campings, pour toutes ces situations. L'association ALEM, Habitants de Logement Éphémère et Mobile, qui est une des associations qui est née d'un terrain de camping, hein, des personnes qui vivaient à l'aide d'un terrain de camping, elle est membre du DAL, hein, de la fédération du DAL depuis des années. Donc il y a la nécessité en fait de penser des garde-fous supplémentaires pour assurer à ces personnes en situation souvent plus ou moins de vulnérabilité sociale par ailleurs des leviers pour faire face à des abus de pouvoir de tout type, hein. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est pas remettre en cause les normes du logement standardisé. Enfin, la question n'est évidemment pas au contraire, il s'agit de renforcer le droit au logement avec des leviers juridiques qui sécurisent les positions de ces personnes. Il ne s'agit pas là de revenir sur des acquis, hein, c'est pas une législation, la législation sur les campings ou la législation sur l'habitat léger, c'est une législation qui est très peu protectrice. Donc ce que demandent ces associations, c'est au contraire de renforcer les garanties pour les personnes elles-mêmes. Et parmi ces garanties, il y a nécessité aussi, bien entendu, de, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de réguler le marché immobilier, de permettre à chacun d'avoir le choix entre un logement qui pourrait être atypique par certains aspects et le fait de disposer d'un logement conventionnel de manière inconditionnelle.
Ce qu'on entend dans ce que vous dites tous les deux, c'est que se loger, c'est quand même compliqué et c'est un droit et ça devrait être un confort pour tout le monde, je veux dire, c'est obligatoire. En France, on a suffisamment de logements, si on compte, pour que tout le monde ait un logement. Il y a suffisamment d'espace bâti pour que tout le monde ait un logement. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que les formes sur lesquelles vous avez travaillé tous les deux et que vous travaillez, elles sont une brique de plus et elles contribuent à rendre visibles des gens qui sont en attente, en fait. Et donc, ça augmente la pression pour que ce parc qui traditionnellement, ou qui, je dirais aujourd'hui, évolue en se fermant de plus en plus, résidence secondaire, sous occupation, etc., subissent une pression et ça nous amène un peu vers cette question qu'on souhaitait vous poser à tous les deux, qui est que voudriez-vous voir dans les programmes des élections municipales ou que souhaiteriez-vous au regard de ce que vous défendez tous les deux, qui est quand même assez original d'une certaine façon.
Peut-être juste pour rebondir justement sur la question des droits des personnes qui occupent, ça renvoie à la question des obligations des propriétaires en fait de ces campings. Et c'est peut-être ça effectivement, si on arrive à ces situations-là, qui sont à la fois désirées mais en même temps pas très protectrices, c'est qu'il y a quand même une économie sous-jacente qui fonctionne bien pour celui qui est propriétaire du camping et qui a trouvé cette solution parce que son camping avait sans doute plus de vocation touristique. Donc c'est là où les enjeux des politiques, enfin, où l'action politique elle est attendue aussi, c'est de réussir à déjouer un certain nombre de situations de rente pour des propriétaires de terrain, des propriétaires de foncier. Et je crois que Paul Citron pourra compléter sur la question de l'immobilier vacant, mais c'est un enjeu extrêmement fort et la question du foncier vacant elle est aussi extrêmement importante. Donc tant qu'on n'aura pas d'intérêt à mettre sur le marché les logements dont on a hérité, donner un usage à des terrains artificialisés qui ne servent à rien pendant 4 ans et donner du sens à ces terrains-là, on n'avancera pas. Et je pense qu'effectivement, il faut partir de la question du déjà-là pour l'adapter à ses besoins et peut-être le faire de façon progressive parce que ça ne se fera pas du jour au lendemain que les mobilhomes seront conformes aux réglementations, etc. Mais il faut tracer le chemin pour y parvenir et ça, les élus locaux, ils sont au premier rang.
Voilà une bonne piste de programme politique. Peut-être Gaspard Lyon pour conclure. Est-ce que vous voulez ajouter un mot là-dessus?
En tout cas, il y a vraiment là, oui. Enfin, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Camille. Et je pense qu'il y a la nécessité de politiser aussi la question du logement, hein, qui est faiblement politisée. Hein. C'est, on voit bien comment ça fait évidemment, c'est évidemment une sphère de l'existence fondamentale pour tout un chacun. Mais comment, dans un contexte de crise multiforme et de d'inaccessibilité croissante structurelle au parc du logement ordinaire, de plus en plus de personnes se retrouvent confrontées à des difficultés plus ou moins extrêmes. Donc il y a cette nécessité. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de encadrer, de réguler le marché. Il y a, du point de vue des communes, on voit que les 2/3 des communes ne respectent pas la loi SRU aujourd'hui. Hein, donc une nécessité aussi de construire du logement social et pas n'importe lequel, plutôt des logements adaptés à la demande de type PLAI. Donc là, il y a tous ces enjeux-là, mais qui relèvent évidemment pas que des municipalités. Hein, il y a un cadre national. Le rôle des préfets qui sont aussi très très conciliants souvent vis-à-vis des communes qui respectent pas ces obligations. Et puis par rapport à nos discussions, tout ce qui a trait à l'habitat non ordinaire où la loi de 2014 par exemple autorise sur certains territoires, autorise les communes à avoir des espaces dédiés pour l'habitat léger, réversible, etc. Mais très peu d'élus se saisissent de ce cadre réglementaire par méconnaissance ou par hostilité, beaucoup. Donc il y a tout un travail aussi à faire d'information, de sensibilisation sur ces questions, je crois. Ouais.
L'habitat léger dans les programmes municipaux, j'espère que ça pourra inspiré certains de nos auditeurs ou auditrices. Ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. Ce numéro a été réalisé avec le soutien de la Société des Grands Projets. Merci à vous, Camille Picard et Gaspard Lyon, d'être venus nous parler aujourd'hui. Merci à toi, Dominique. Et merci aussi à Plateau Urbain et au Moment de mettre à disposition le studio au sein du projet Césure. Et à bientôt pour un nouveau numéro de Ainsi va la ville sur Cause Commune 93.1 FM.